l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au terme officiel d'architecte paysagiste, Pascal Cribier préférait celui de jardinier. Né en 1953 à Louviers, dans l'Eure, disparu en 2015, lui qui découvrit le métier à la faveur d'un petit boulot chez un pépiniériste, fut l'auteur de quelques 180 jardins conçus en l'espace de 30 ans seulement. Du réaménagement de celui des Tuileries, qui le fit connaître au début des années 90, à celui implanté dans un ranch de 35 000 hectares dans le Montana, en passant par celui qu'il appelait son laboratoire, à Varengeville-sur-Mer, il travaillait indifféremment pour des commandes publiques ou privées, en France et à l'étranger. En 2011, il racontait son parcours et sa passion du jardin à Laure Adler pour un épisode de Hors-Champ, diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 janvier de cette année-là.
Hors-champ. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Pascal Cribier. Pascal Cribier, au fond, c'est formidable d'avoir été un mauvais élève.
C'était pas formidable au moment où on est éjecté avant de passer son baccalauréat et quand on voit ses parents pleurer.
C'est ce qui s'est passé pour
c'est
vous.
C'est ce qui se passe. D'ailleurs, souvent, je suis un peu agacé qu'on mette ça en avant pour d'autres gens. Mais ne supportant pas d'être enfermé à l'intérieur, j'ai travaillé dès l'âge de 14 ans et je voulais absolument faire d'autres choses et être assez actif, on va dire, physiquement.
Oui, il paraît que vous aimiez beaucoup le kart.
Oui, j'ai fait partie, gamin, j'étais pilote professionnel de kart et j'ai fait partie de l'équipe de France.
C'est pas mal.
C'est pas mal, ça faisait voir du pays sur toutes les autoroutes et mon ami Eric Choquet, à 18 ans, a trouvé ça tellement débile qu'il m'a convaincu d'essayer de passer un diplôme. Et j'ai pu, 2 ans après, avoir un diplôme supérieur d'art plastique et puis 4 ans après, un diplôme d'architecte. Ce qui était un peu mieux, je crois.
Ouais, ce que vous oubliez de dire, c'est qu'entre-temps... Car vous êtes joli garçon, ce qui ne se voit pas, hélas, à la radio, que vous avez été mannequin aussi.
Oui, il y a un an ou deux, j'étais un peu obligé de dévoiler mon parcours. Et comme j'avais besoin de sous à l'âge de 14 ans pour me payer mes premières cartes.
Ensuite, vos Ferrari.
Non, elles n'étaient pas à moi.
Ah.
Voilà.
Vous les voliez, peut-être?
Non, on me les prêtait. Et c'est là qu'heureusement, les propriétaires écoutaient France Musique et que je découvrais des musiques intéressantes à la radio.
En Ferrari
ou en Porsche.
Pourquoi il faut forcément avoir une voiture de luxe et être à 200 à l'heure pour écouter de la belle musique?
Non. Mais ça m'a permis d'entrevoir un autre monde que celui de la mécanique automobile où j'étais gamin au lycée technique automobile d'Argenteuil, d'écouter d'autres musiques, les Rolling Stones ou les Beatles, et de découvrir les jardins et les plantes.
Alors nous allons entendre une ambiance sonore qui va vous ramener à la fin de votre adolescence un peu tapageuse, Pascal Cribier.
Ici, le jardin d'acclimatation qui sert de cadre à un nouveau sport automobile qui est né ce matin, mais né à Paris évidemment, puisqu'il existe déjà aux États-Unis. Il s'agit du karting. Kart signifiant charrette en anglais. Or, ce sont des petites voitures réduites à leur plus simple expression, châssis, cadre métallique, moteur à l'arrière, soit de 50, soit de 100 cm3, vitesse maximum environ 60 km/h. Pas d'embrayage, mais accélérateur et frein, donc 2 pédales. Eh bien, que pensent les champions? Par exemple, Gérard Leroux, le champion bien connu de l'équipe DB Panhard. Que pensent les champions du karting? Gérard, à toi.
Eh bien, je pense que c'est très drôle. J'ai tourné tout à l'heure avec un petit engin qui marche fort bien. on peut s'amuser. Et je crois vraiment que si les jeunes se mettent à faire du karting, on aura beaucoup plus de pilotes en France. Nos rangs sont clairsemés. C'est une voiture qui marche pas mal. On l'a fait déraper. C'est sympa.
Bon, mais écoute-moi, tu sais qu'il y a eu un tas de mouvements de voitures miniatures et tout ça qui ont donné plus ou moins de résultats. Crois-tu que celui-ci tiendra ?
Oui, certainement, parce que le prix de revient de la voiture est infiniment moins important. Il est à la portée de tout le monde, à mon avis.
Il est de combien ?
Autour de 100, 150 000 francs. Les plus vite vont coûter autour de 150 000.
Bon, eh bien, je te laisse aller à la ligne de départ. Merci, Gérard. Voici un célèbre casse-cou, Gilles Delamarre. Gilles, que penses-tu des cartes ?
Il n'y a pas besoin d'être un casse-cou pour faire ça, en tout cas. Hein. C'est une école de course merveilleuse, oui.
Bon, mais tout à l'heure, alors toi, tu t'alignes aussi, puisqu'il va y avoir une course entre vedettes et champions. Eh bien, en fait, de vedette, maintenant, je me tourne vers une championne qui est en même temps une vedette, enfin, qui est tout ce qui est sympathique, d'ailleurs, c'est ta femme, c'est Colette. Colette Duval, est-ce que vous avez essayé le karting ?
Bien sûr. Dès le premier jour, nous sommes venus ici, d'ailleurs, au Jardin des Plantes. Et ma foi, on est parti. D'ailleurs, ce jour-là, c'était très amusant parce qu'il y avait énormément de neige et elle commençait à fondre. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés assis dans un siège de glace. C'est très, très, très confortable, d'ailleurs.
Alors, vous avez confiance ?
Mais j'ai confiance surtout dans les femmes.
Ah oui, vous croyez faire maman ?
Ah là là, il faut absolument que les femmes gagnent. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est beaucoup plus facile pour une femme que pour un homme. La direction est plus directe et comme les femmes sont des êtres très instinctifs, n'est-ce pas ? Ah, ça va.
Je vois votre mari qui vous regarde d'un air rempli de doutes.
Il n'est pas d'accord par principe.
Et c'est sur ces impressions que champion, championne et vedette vont rejoindre Gérard Leroux sur la ligne de départ. Et c'est en vous laissant entendre ronfler les petites cartes que je quitte le jardin d'acclimatation et que je rends l'antenne au studio.
Eh bien oui, vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes bien en train de converser. Alors, étiez-vous un champion ou une vedette, Pascal Cribier ?
Non, j'étais pilote professionnel dans l'équipe de France. Et c'est amusant
de
penser que c'était...
Vous en faites encore du kart ?
Ah mais de plus en plus. Tous les pilotes de Formule 1 aujourd'hui sont tous issus du kart. Et les gamins qui font du kart aujourd'hui rêvent tous d'accéder un jour à la Formule 1, ce qui n'était pas notre cas à cette époque-là, dans les années 70.
Alors, vous êtes devenu l'un des plus grands paysagistes internationaux. On reviendra sur vos créations dans le monde entier. Mais je n'ai pas bien compris comment un jeune homme qui est viré de l'école à 14 ans, qui fait du mannequinat, qui fait du kart, arrive à être diplômé d'une école d'architecture sans avoir son baccalauréat.
Merci mai 68, il y avait une faille formidable, parce que j'ai présenté à l'école des Beaux-Arts rue Bonaparte mes dessins de voitures, de circuits de voitures.
Décidément, vous étiez obsédé.
Ah, totalement, jusqu'à l'âge
la
de 20-25 ans.
La nature, c'est venu tardivement alors.
Maintenant, tout autant, on peut avoir plusieurs passions. Et en présentant ces dessins, j'étais accepté pour pouvoir passer ce diplôme supérieur d'art plastique au bout de 2 ans. Et ils n'avaient pas l'habitude de voir de jeunes élèves présenter des dessins de voitures, de circuits et d'ambiance automobile. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait directement rentrer avec les mêmes unités de valeur en 3e année d'architecture. Voilà, avec les mêmes. Et donc, 6 ans après... avant certains de mes amis, j'ai pu être diplômé d'architecture. Et là, j'ai déjà fait un diplôme qui était tourné et lié autour du paysage.
C'était le tout début en France de l'enseignement du paysage.
C'était le tout début à l'école de Versailles.
Et pourquoi avez-vous choisi cette voie-là qui, à l'époque, était extrêmement novatrice et un peu, pour dire la vérité, un peu délaissé par rapport à l'architecture.
Totalement délaissé. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'architecture est en bonne voie et que les problèmes de paysage, d'environnement et d'urbanisme sont vraiment essentiels. Et le lendemain de mon diplôme, je suis allé travailler en pépinière, comme font les étudiants pour l'été. Et au lieu d'y rester un mois, j'y ai travaillé 2 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé en entreprise. Et puis après, je me suis dit, comme on dit, je me suis mis à mon compte pour dessiner des jardins directement.
Que s'est-il passé pendant ces 2 ans dans cette pépinière ?
J'ai déchargé des camions, j'ai arrosé des plantes, je les ai transplantées et c'est là qu'on comprend ce monde extraordinaire du végétal, incroyablement vivant, sans fin, fascinant et commencer au même moment à jardiner en Normandie et donc à voir le comportement de toutes ces plantes qui viennent du monde entier et qui me fascinent toujours autant.
Nous allons écouter la voix de Michel Foucault. qui va nous parler de l'interstice qui existe entre toutes les sciences humaines, de la nature et des sciences exactes, tout le système de la simultanéité de notre savoir moderne.
À la fin du XVIIIe siècle, on a vu apparaître en même temps une discipline comme la science du langage, la philologie, une discipline comme l'économie politique, une discipline comme la biologie. On a vu aussi apparaître des philosophies de la finitude humaine, comme la philosophie de Kant. Entre ces domaines, il n'y avait aucune communication consciente, ou à peu près aucune. Les biologistes ne connaissaient ni les économistes, ni les philologues. Les philologues non plus ne connaissaient ni les économistes, ni les biologistes, etc. Or, tous ces phénomènes, qui sont comme dispersés, en tout cas comme clos les uns sur les autres, obéissent cependant à une structure commune. On peut parfaitement retrouver quelle a été la pensée qui était en quelque sorte sous-jacente à ces différents domaines, et en faisant une archéologie, j'ai voulu faire émerger ces formes générales de pensée qui circulent entre les différents domaines scientifiques, qui leur servent à la fois de support et d'interstice. Et si on arrivait, c'est ce que j'ai essayé de faire, si on arrivait à retrouver l'interstice qui existe, qui circule entre toutes les sciences humaines et entre les sciences humaines et les sciences de la nature ou les sciences exactes, eh bien, c'est en quelque sorte tout le système de la simultanéité de notre savoir moderne qu'on arriverait à éclairer.
C'est vrai que Michel Foucault, quand on l'entend s'exprimer sur l'archéologie du savoir et sur la manière dont il a su embrasser de manière panoramique, philosophique et politique toute cette sédimentation des savoirs, on s'aperçoit que l'art d'être paysagiste, la connaissance, les connaissances qu'il faut pour être paysagiste font appel à de très nombreuses disciplines et que c'est au croisement de la biologie, de la science de la nature, mais aussi de la police au sens du règlement de la cité et du vivre ensemble, et que c'est un des métiers les plus passionnants aujourd'hui, mais qui requiert des connaissances dans différents domaines.
Tellement multiples et tellement exigeantes, et en évolution les unes et les autres, en permanence, ce qui est très difficile. Très très difficile, et c'est pour ça que je pense réellement que nombreux paysagistes, et c'est pas mon cas, je travaille plutôt dans des équipes d'urbanistes, nombreux paysagistes sont devenus urbanistes, et devraient être la profession, une des professions les plus écoutées en France. Tellement les enjeux sont considérables, sociaux, culturels et économiques. Que ce soit pour les transports en commun, que ce soit pour des villes nouvelles, que ce soit pour les quartiers délaissés. C'est hallucinant ce qui s'est passé dans les quartiers délaissés depuis 30 ou 40 ans. En termes de qualité de la vie, en termes de décision politique, en termes d'économie, en termes d'architecture elle-même, et ne parlons même pas en termes de jardin, ce qui est davantage mon ressort. J'ai essayé parfois d'aller y travailler et on voit qu'on est totalement dépassé, submergé par des choses bien plus importantes et qui ont démarré des décennies avant vous. Pour
par
revenir
exemple,
sur Michel Foucault,
oui.
Monique Mosser donne un texte de Michel Foucault qui est extraordinaire, sur les jardins, et on s'imagine mal Michel Foucault penser et s'intéresser aux jardins. Et une des phrases est celle-ci. « Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et puis c'est la totalité du monde. Le jardin, c'est, depuis le fond de l'Antiquité, une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante. » C'est beau quand même. Et je trouve cette phrase tellement concise, parle de cette stratification, de ces palimpsestes sur lesquels on se penche et sur lesquels on réfléchit dès qu'on intervient dans un espace vivant. Qu'il soit historique, que ce soit une plaine qu'on imagine une plaine à betteraves, que ce soit des habitations des années 50, à chaque fois, cette stratification, ces traces de vivant doivent être la ligne directrice de ces projets que j'essaie de faire avancer en parallèle, où les équipes que je constitue, il n'y a pas de hiérarchie. J'avance pas en pyramide en ayant ce qu'on peut appeler une bonne idée. Mais au contraire, que ce soit la biologie, la podologie, le sol, que ce soit les pratiques, les techniques de gestion, l'influence de l'art aujourd'hui sur les jardins ou sur l'urbanisme, dans mes projets, j'essaie de faire en sorte que tout avance en même temps.
Vous travaillez aussi bien pour faire des jardins privés chez des gens qui sont des milliardaires que dans des endroits justement de commande publique, dans des squares, dans des villes par exemple comme à Lyon. Vous avez aussi avec Louis Bénèche réinventé le jardin des Tuileries, ce qui n'est pas rien. Et on a l'impression qu'à chaque fois que vous intervenez, effectivement en équipe, et à chaque projet, chaque équipe, hein, vous constituez une nouvelle équipe,
oui.
À chaque fois, vous prenez en compte l'histoire du lieu et puis tout ce qui peut se passer dans ce lieu, mais aussi autour du lieu.
Par exemple, je ne rentre jamais dans une église ou un musée, mais je suis assez captivé par ce qui se passe autour, à l'extérieur. Les incidences qu'ont eues les églises ou les mosquées sur l'urbanisme, et les incidences qu'ont les musées aujourd'hui sur les villes dans lesquelles les musées s'installent. C'est assez fascinant. Et c'est toujours très très beau aussi de regarder l'arrière des jardins, comment un jardin lui-même s'est constitué, comment on a pu le rendre heureux et essayer de le rendre le plus vaste possible. Ce qui, à mes yeux, fait quand même la différence avec le paysage. J'ai toujours voulu faire une différence très très marquée entre jardin, nature et paysage. Et dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on mêle un peu le tout dans un grand sac, ce qui n'est pas obligatoirement commode pour établir les projets.
Vous venez de dire, Pascal Cribier, comment je peux rendre un jardin heureux. Donc, vous pensez qu'un jardin, c'est un être vivant ?
Ah, totalement. On ne m'a jamais posé la question, merci, mais c'est un être vivant. Ce sont des êtres vivants qui sont les uns à côté des autres en train de...
C'est un sujet.
Ce sont des sujets sans interstice, justement, qui sont en train de s'aider les uns avec les autres. Et dans la nature, ça a plutôt une petite tendance quand même à se faire une légère guerre. On va dire, pousse-toi de là que j'y sois moi aussi, ou je t'aide, mais ne me prends pas trop de place. Et j'ai l'impression que mon métier de jardinier, pas celui de paysagiste, mais mon métier de jardinier est d'essayer d'un peu de pacifier toutes ces plantes qu'on tient à avoir les unes avec les autres et qui n'ont pas de raison théoriquement biologique de se retrouver les unes avec les autres. Et ce que je trouve très très beau dans un jardin, c'est quand on réussit à les faire cohabiter ensemble et que le visiteur, le promeneur, lui-même ne soit pas ému par notre travail laborieux pour qu'elle puisse pousser, mais simplement ému par la beauté du monde végétal qui est sans fin.
Donc le sous-bois, les fleurs naturelles, tout ce qui peut surgir de la nature sans être domesticable, vous intéresse encore plus que ce que vous pouvez mettre dans un jardin ou dans un parc pour faire ordonnancement. Vous voulez plutôt du désordre qui apporte du calme.
C'est joliment résumé, c'est ça exactement. Et souvent, de combiner ce qui jaillit de façon endémique d'un endroit et d'y mêler des plantes qui viennent d'ailleurs. Et principalement des cultivars ou des hybrides.
Alors
qui,
c'est
à mes
quoi
yeux,
les cultivars?
Ben, ce sont les plantes qu'on croise un peu entre elles, vous voyez, d'une façon ou naturelle.
C'est
ou
quoi
artificielle.
EGM?
Pas du tout. Non, c'est simplement, si par exemple vous avez un sureau à feuilles vertes qui fait des très jolis fruits et qu'on peut déguster en sorbet ou en sirop pour le sureau, il y a quelques dizaines d'années, les horticulteurs en ont inventé un avec une feuille un peu découpée, comme un érable du Japon. Et puis on en a inventé un qui avait une feuille pourpre presque noire. Et puis depuis quelques années, quelqu'un a réussi à en fabriquer un, par attention d'ailleurs, c'est simplement en étant attentif à tous les semis différents, et c'est ce qui me plaît beaucoup, d'en faire un qui est à feuilles lacinées noires et qui s'appelle Black Lace. Et quand les gens ont découvert qu'on pouvait avoir sur un terrain calcaire, ce qui n'est pas le cas pour les érables du Japon, cette plante incroyable qui métamorphose un jardin et qui lui donne une autre valeur, une autre direction, et quand on peut ensuite le mêler avec des plantes qui sont endémiques à un endroit, on n'essaie pas de recréer de la nature, mais on crée un jardin où tout se mêle, sans interstice justement.
Nous allons écouter un monsieur qui, je crois, est très important dans votre itinéraire et votre cheminement, Pascal Cribier, c'est Roberto Burle Marx. C'est l'un des plus grands paysagistes brésiliens. Il a travaillé avec Oscar Niemeyer. Il va nous parler de la nature et de son jardin près de Rio de Janeiro que vous avez la chance de connaître, mais que Catherine Parent connaît aussi.
Si je fais un jardin, je ne veux pas imiter la nature, mais comprendre la nature, mais donner, subordonner le jardin à des règles qui sont humaines. La géométrie humaine. Le Corbusier disait, dans une maison, c'est une machine à vivre, le jardin pouvait être la même chose. C'est une machine à vivre liée avec la nature, mais où on ne peut pas ôter rien, tout est dans sa place. Mais c'est pas toujours comme ça parce qu'il y a une qualité du jardin. C'est le changement constant. En 1949, j'ai acheté la propriété avec mon frère Siegfried et je disais toujours, je veux un endroit avec des pierres, avec la vue et de l'eau. À cause de ça, j'aime avoir des plantes aquatiques. Il y a de la Victoria Amazonica, il y a de Nelum bonosifera, les lotus, et d'autres plantes même qui ne sont pas du Brésil, mais qui ont une grande beauté et qui ont, habitent dans des endroits avec un climat analogue. Mais pour moi, un jardin, c'est toujours la juste position des volumes, des petits volumes, et pensant à l'époque. À cause de ça, le jardin a des plantes qui ont des floraisons dans le printemps, dans l'hiver, dans l'été. Toujours, c'est attendre les moments de floraison et où les parfums viennent. C'est la merveille de savoir que les plantes ont besoin des insectes beaucoup de fois pour la reproduction. Et c'est toujours pour moi, un grand renouvellement dans la nature. Voir comme la plante est toujours en relation avec les animaux et en relation avec d'autres plantes. C'est toujours l'observation qui compte. Et dans mon jardin, il y a naturellement des grands cailloux et des rochers qui font part du paysage. Et c'est la merveille pour moi, tous les jours, voir les plantes et qui me donne toujours ce grand moment. Le grand moment pour les plantes, c'est l'amour à travers les fleurs qu'on voit partout. Les lois physiques sont très importantes. Savoir comme la mise en valeur d'un jaune auprès d'un violet, un orange auprès d'un bleu. Mais ça est très important, connaître la plante qui pousse en même temps pour mieux donner une émotion de couleur et en même temps donner une émotion des volumes. Parce que il y a des plantes qui sont des sculptures qu'on doit voir dans les divers angles. En même temps, on conduit dans le jardin le spectateur à différents angles pour mieux montrer la beauté de la composition.
C'est une archive d'une émission Permis de construire sur France Culture le 31 décembre 92. Vous connaissez ce jardin. Et donc Roberto Burle Marx parle à la fois de couleurs, d'odeurs, d'amour.
Et d'avenir, c'est ça que je trouve extraordinaire. Je l'avais rencontré en France par hasard un peu, et on s'était promené dans un jardin. Et ce qui est fantastique, c'est que c'était d'abord un botaniste qui a découvert des plantes. Il était peintre et ensuite il a fait ces espaces qu'on connaît, qui sont fabuleux. Et dans cet extrait que je ne connaissais pas, on voit bien qu'il est sans arrêt projeté dans l'avenir. Et c'est pour ça que les jardiniers, en général, sont tous centenaires. C'est qu'ils pensent à la vie et aux saisons futures et les attend avec ce que je qualifierais le jardin par cette superposition des temps. C'est-à-dire qu'il parle très très bien des arbres qui sont autour du paysage et de l'émotion d'une journée, d'une semaine et d'un climat qui va se dérouler, et surtout au Brésil où il peut y avoir des gros orages et des lumières incroyables, et que cette superposition d'un arbre qui est plutôt à l'échelle, je dirais, d'une durée de vie humaine, où on se rend pas tellement compte si l'arbre a 100 ans, 150 ans, et il nous dépasse, en tout cas dans sa durée de vie, d'une floraison elle-même qui est éphémère, d'arbustes, d'une composition dont il parle très très bien pour faire plaisir aux visiteurs, tout est tourné vers le plaisir, et puis de cette abeille qui vient butiner, qui vient reproduire ce monde végétal qui cette fois-ci est la nature, mais il l'a mise en scène d'une façon artificielle, pour que ces instants se superposent les uns sur les autres. Et c'est ce qui pour moi est le plus émouvant dans un jardin, c'est qu'on ne reviendra jamais en arrière dans les émotions que suscite la visite d'un jardin, puisqu'on n'aura jamais les mêmes éléments qui pourront se superposer aussi bien sur un temps long, sur un temps court et sur le climat qu'il fera au moment où vous aurez la découverte de ce lieu. Et on sent qu'il est lui-même déjà projeté dans les saisons futures.
Alors, c'est important ce que vous venez de dire, Pascal Cribier, parce que vous avez publié un merveilleux livre qui fait le point, qui permet de voyager à travers le monde entier, puisque vous faites des jardins dans le monde entier, qui, je crois, a été en rupture de stock, mais qui maintenant va de nouveau être disponible.
Pour le printemps prochain.
Pour le printemps prochain. Et dans ce livre, vous faites allusion à une rétrospective de votre œuvre, malgré votre jeune âge et votre physique encore de mannequin. Eh bien, vous avez eu droit à une rétrospective. Et dans cette rétrospective, ce qui est impressionnant, c'est que vous mettiez au même niveau les projets non retenus comme les projets concrétisés.
Oui, je n'y ai pas...
Pas de différence.
Non, parce qu'on s'investit de la même façon et surtout, vous avez même parfois des projets, que vous êtes, des réalisations que vous êtes obligé d'abandonner, surtout dans l'espace public, dès que vous livrez le jardin. Et ça, je trouve ça terrible. Quand d'un seul coup, vous avez la réception officielle et que l'entreprise va être payée, et vous aussi, vous dites un peu adieu au jardin. Et ça, je trouve ça très, très douloureux, alors qu'on a envie, au contraire, de continuer d'aider et de faire pousser les plantes les unes ensemble, et les unes avec les autres. Et ça, je trouve ça assez douloureux.
Dans votre vie de paysagiste, il y a eu effectivement des moments douloureux, et notamment cette commande de Jean-Marie Messier du temps de sa splendeur. Pouvez-vous expliquer ce qui vous est arrivé, Pascal Cribier ?
Très rapidement, Jean-François Dubos, qui était président du Carrousel du Louvre, m'annonce qu'ils ont un domaine qui a été acheté il y a quelques dizaines d'années pour créer une usine d'eau et une réserve d'eau à côté d'Auvers-sur-Oise, en face, sur l'Oise. Et ils ne savent pas s'ils vont le garder ou le vendre, puisqu'ils n'en ont pas besoin, que le château est là, mais sans utilisation. Et en découvrant l'endroit, en quelques minutes, je m'imagine un projet fabuleux, puisqu'une usine d'eau allait être construite avec une eau moins chlorée et moins calcaire, et que je découvre qu'il y a un très bon sol. Et en revenant tout de suite, je dis à Jean-François Dubos, ça m'intéresse, vous me laissez quelques années dans cet endroit, ça ne vous coûtera rien. Je vais creuser pour faire des pièces d'eau devant le château dont vous pouvez faire un programme de colloque ou ce que vous voulez. Et puis, vous me laissez tranquille dans des hectares qui sont derrière et je fais un jardin expérimental qui racontera la stratégie qu'ont les plantes à travers le monde entier en fonction des différentes formes d'eau qu'elles peuvent trouver. Donc, j'aime quand même ces gens-là, comme Jean-François Dubos, qui a d'ailleurs été le directeur de cabinet de Charles Hernu, et Jean-Marie Messier, qui en quelques minutes me disent oui. Et quand je leur ai proposé de garder et d'ouvrir une centre publique entre les deux communes et qui traversait un bois de platane, ils n'ont pas mis plus de quelques secondes pour me dire qu'évidemment qu'entre mairie et mairielle, on n'allait pas privatiser leur lieu, qui devenait un lieu de colloque, mais qu'au contraire, c'est eux-mêmes qui m'ont dit « Mais ce bois de platane, vous en avez besoin dans votre projet ? Non ? Eh bien, donnons-le aussi à la commune. » Et parfois, les plus terribles des capitalistes ont une certaine générosité.
Oui, mais bon, on connaît la suite. Le Messier a été viré.
Et Proglio a fermé l'eau dans l'heure où Messier a été viré, comme vous dites.
Et donc le jardin...
Le jardin est mort en quelques jours, après seulement 18 mois d'existence. Ça a été très, très douloureux pour toute l'équipe, parce qu'on a vu que nos propos, qui étaient un artifice complet, de mettre en évidence la façon dont certaines plantes pouvaient survivre dans des milieux extrêmes, que ce soit des eaux saumâtres, que ce soit des eaux chaudes, que ce soit de la glace. On avait réussi à faire pousser en plein été des plantes de Sibérie à travers la glace, pour montrer effectivement la force et l'infinie intelligence du monde végétal. Et donc là, vraiment, les visiteurs, puisque le lieu était quand même ouvert au public, gratuitement sur rendez-vous, alors qu'avant, c'était clos. Je trouvais que tout ça, c'était une avance, si vous voulez, pour la région, pour les jardins botaniques. Et je crois que Jean-Marie Messier disait il y a 10 ou 15 ans qu'on ferait tout sur son téléphone portable. Et on le prenait pour un fou.
Nous allons écouter la voix de Paul-Émile Victor. En 1962, il parle de son île à Bora Bora, une île que vous connaissez bien.
Le problème principal de l'homme, c'est l'environnement. Le problème principal de la Terre, c'est l'homme. C'est l'explosion démographique. Le fait que nous sommes 5 milliards 200 millions maintenant, et que dans 25 ou 30 ans, on sera une 10 milliards, c'est de là que découlent toutes les plaies et toutes les souffrances actuelles de la nature et de l'homme. Nous sommes trop nombreux. Ou plus exactement, nous ne sommes pas trop nombreux, parce que la Terre pourrait nourrir tout ça, mais nous sommes trop nombreux de gens désorganisés et volontairement, parfois, détournant les buts réels. Motutane, notre île, quand nous l'avons achetée, était en friche. C'est-à-dire que la jungle sur la végétation avait 1m50, 2m50 de haut. On ne voyait rien. Et cette jungle descendait jusqu'à la plage. Donc, d'abord, il fallait défricher, construire des farés, etc., etc. Maintenant, tout est là. C'est en place. C'est une grande pelouse verte. Mais il y a l'entretien. Et Colette, elle passe son temps à l'entretien de cet îlot. En d'autres termes, il ne suffit pas de rêver, il faut réaliser, comme toujours d'ailleurs dans la vie. Et aujourd'hui, après 15 ans de vie permanente sur l'îlot, ma femme et moi, toutes les minutes, nous apprécions le fait que nous sommes sur cet îlot, avec ce merveilleux lagon autour de nous, et la grande île qui est très belle. Enfin, tout y est, nous ne sommes pas déçus du tout, et la preuve, c'est que Colette, ma femme, n'est pas venue ici, elle préfère rester sur son îlot.
Alors, on vient d'entendre la voix de Paul-Émile Victor. Il faut dire que Bora Bora, il y a une grande île et puis il y a des tas de petits îlots. C'est sur un de ces îlots que vivait Paul-Émile Victor. Et puis un jour, on vous a demandé, après un cyclone, de...
François Nars a racheté à la famille Victor, donc, cet îlot de 4 ou 5 hectares. Je suis très ému d'entendre son propos, surtout qu'il annonce qu'il y avait de la jungle. Et je reviens là-dessus, l'homme ne peut pas, même que ce soit en Normandie, en Sibérie ou dans un endroit paradisiaque comme Bora Bora, on ne peut pas marcher, on ne peut pas vivre. Donc dès qu'on s'installe et dès qu'on fait un jardin, on abîme de la nature et on détruit des écosystèmes. Il faut vraiment qu'on se mette ça en tête. Et au contraire, les jardins sont de toutes les façons plus faibles en biodiversité que n'importe quel endroit abandonné. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les sans-pattes qu'il y a et les cafards qu'il y a partout et les moustiques qu'il y a à Bora Bora. Et j'avais pas du tout envie, à cause de l'image de carte postale qu'a fait véhiculer Gaston Flosse, d'aller à Bora Bora.
Alors Gaston Flosse, il faut expliquer à nos auditeurs. Donc
pardon.
Il était président de la Polynésie. C'était l'ancien président de la Polynésie française. Il a été destitué.
Je ne sais pas où c'en est, mais on va reparler de paysage, là, parce que c'est une aventure extraordinaire avec François Nars, puisqu'on a créé, et il y avait deux personnes qui réussissaient à l'entretenir, un endroit assez paradisiaque, artificiel, avec 1100 cocotiers artificiellement transplantés d'un autre îlot, là où ils étaient abandonnés à cause ou grâce à la politique de Flosse, puisque Flosse, avec la manne de l'État français, tous les ans ou tous les deux ans, inventait une fausse économie. Un coup, c'était la vanille, un coup, c'était la perle, un coup, c'était le cocotier, un coup, c'était les croisières. Et donc, il a fait croire qu'il faisait beau en Polynésie. Il y a un jour de plein soleil par an. Et moi qui adore la pluie et qui adore les météores et qui adore les gros nuages gris et les orages, j'étais stupéfait en y allant pour la première fois et ne pensant pas y travailler, puisque je m'ennuie sur les plages de sable avec du ciel bleu, que c'était tout à fait l'inverse, que les plages n'étaient pas en sable mais en débris coralliens, qu'elles sont pleines d'un petit moustique qui vous ronge les mollets et donc vous restez pas dessus, que vous pouvez pas vous baigner dans le lagon parce que vous avez de l'eau qu'aux genoux ou à mi-cuisse, et on voit les jeunes couples en voyage de noces pour des fortunes pendant 3 jours sous des bourrasques de vent et de pluie aller se baigner en s'asseyant comme un bain de siège et ressortant là et repartir dans les bungalows et se jurant de ne plus jamais remettre les pieds à Bora Bora pour des milliers d'euros puisqu'il n'y a que 2% des touristes qui reviennent et qu'au contraire François Nars, le nouvel acquéreur de ce lieu, aime la pluie, le vent, et on a réussi à faire un projet qui était assez incroyable pour essayer de résister au cyclone par rapport à ce qu'a raconté Colette Victor dans un texte inouï, où 2 fois de suite, quand le Motutene était dévasté, elle se retrouve dans le lagon.
C'est donc la maison.
C'est donc l'îlot ouais. Qui est autour de l'île Haute. Et donc Colette Victor s'est retrouvée en pleine mer, au milieu des débris, à renager pour retrouver son îlot. À nouveau, on va dire un tsunami, la remet dans l'eau et elle se dit « bon, vraiment là maintenant je mérite cet endroit ». Et l'endroit était assez dévasté et c'était dans les années 80 qu'il y avait eu cyclone. Et grâce à ma première étude paysagère qu'on avait fait avec Patrick Écoutin sur le paysage du Pays de Caux, donc de la Seine-Maritime, où à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a inventé un paysage agricole pour se protéger du vent, où là, il y a des hêtres qui sont, et des chênes qui sont plantés sur des talus très très proches les uns des autres. Et pour éviter un effet tourbillon de vent, les troncs finissent par former un peigne et filtrent le vent. Et donc, j'ai proposé à François Nars qu'on se fasse un toit de palme et que sous ce toit de palme, il y ait plusieurs jardins, un artifice, même si on a l'impression que c'est sauvage et naturel avec des centaines de milliers de fougères, des gros tiarés qui embaument, qui donnaient l'impression d'être là un peu naturellement, entre guillemets. Notre espoir, c'était que ces troncs, les uns à côté des autres, filtrent le vent. Et au bonheur, pendant des années, quand on traversait l'îlot décrit par Paul-Émile Victor, on avait l'impression, ce qui m'était jamais arrivé dans aucun des lieux dans lesquels j'ai pu travailler, que le vent était en train de se lever. Ça s'appelle les îles sous le vent et il y a toujours du vent qui vient dans un sens ou dans un autre. Et on était totalement à l'abri, sans le moindre souffle d'air, avec 4 ou 5 degrés d'écart, suivant le sens du vent, sur un des côtés de l'île. Et quand on marchait dans le sens contraire, on avait l'impression, et là on arrivait, il y avait 60 ou 80 km heure de vent. Et hélas, mais vraiment hélas, il y a quelques mois, il y a eu un cyclone avec 200 à 230 km heure de vent. J'ai tout de suite appelé François Nars qui m'a dit qu'il y avait un seul des cocotiers qui avait été décapité. Donc comme j'étais fier d'avoir résisté au cyclone, le gardien nous a dit qu'il n'y avait pratiquement pas de vent au cœur du cyclone. Donc j'étais quand même vraiment très très heureux pour lui et très fier. Il m'envoie des photos et là qu'est-ce que je découvre avec vraiment là aussi beaucoup de bouleversé quand même, que la vague avait emporté le sol, que les cocotiers avaient résisté, que notre idée issue de mon expérience de jardinier cauchois avait permis de tenir tête au cyclone du Pacifique, mais que la vague, et c'est un phénomène géologique naturel là-bas, qui va remplir le lagon, puisque l'île, progressivement, va être submergée par ce que je savais grâce aux ingénieurs qui étaient autour de nous, et ce débris corallien, ces fameuses plages de sable blanc qui sont du débris corallien, dans lesquelles on avait réussi à faire pousser ces cocotiers, bien évidemment, qui sont très résistants, mais des fougères et beaucoup d'autres plantes, la vague a emporté 30 à 40 cm de terre, a fait se découvrir tout le système racinaire incroyable des cocotiers qui avaient résisté. Mais aujourd'hui, François Nars sur Motutene se retrouve sans terre sur cette île.
Vous avez l'impression de faire un métier éphémère ou un métier...
Totalement. Ouais. Ah oui, totalement.
Qui dépend du vent,
qui dépend de tout. Je veux dire, j'ai vu des jardins être détruits en une heure par une tempête et j'ai vu dans le paysage, et je suis assez marqué par la façon dont les ormes ont disparu dans les années 70, en quelques années dans toute l'Europe. Et le dernier à Paris, un des derniers, a été abattu devant chez Gibert, boulevard Saint-Michel, cette année.
Où en êtes-vous de votre projet nucléaire, si j'ose dire?
Alors, ce n'était pas un projet nucléaire, c'était un concours qui avait été lancé par la communauté de communes de Cattenom, qui avait, on peut le dire, subi, tout comme la Polynésie, je suis passé trop vite, mais on n'a pas le temps de parler de ce paysage polynésien qui a été ravagé par l'hôtellerie avec ses bungalows sur pilotis, mais vraiment, qui sont vides, hein, qui sont remplis à 15%. Donc c'est un problème d'équilibre.
Vous encouragez nos auditeurs à aller effectivement passer leur voyage de noces ou leurs anniversaires de mariage.
Mais c'est tellement
sous
beau.
La pluie.
Attendez, mais c'est tellement beau, c'est incroyable. Cette île haute de 800 mètres de haut et la couleur du lagon, je n'ai jamais vu des nuages bleu turquoise. Et le lagon est tellement incroyable que même quand il pleut, le dessous des oiseaux est bleu turquoise et les nuages sont au même bleu turquoise. Donc vraiment...
Vous avez oublié de dire qu'on peut aussi, effectivement, même si c'est camicuisse, on peut mettre son corps tout en entier dans le lagon, caresser les raies et jouer avec les dauphins.
Bien
sous
sûr,
la pluie.
Sous la pluie et il fait beau toujours. Là où il y a du vent, ça finit toujours par se dégager. Et donc c'est vrai que c'est là aussi la manne de l'État français qui était due aux recherches nucléaires sur Mururoa. Et donc vous voyez les incidences, comme les quartiers délaissés, des décennies et des décennies après, où on ne se rend pas compte de l'importance des décisions économiques et politiques qui sont prises. Donc je n'ai jamais été pro-nucléaire, mais par contre je trouvais passionnant d'avoir à travailler sur un lac artificiel au pied de la centrale nucléaire de Cattenom, qui est du plus gros modèle, donc 4 réacteurs, et qui apporte l'eau de la Moselle, qui est à quelques kilomètres, pour pouvoir refroidir la centrale. Et au lieu de travailler sur les berges du lac, comme le proposait le programme, dès que je suis arrivé sur place, j'ai vu que par rapport à une presqu'île qui existait, on pouvait faire une île. Et donc, surtout, c'est que cette île avait une meilleure exposition pour raconter le jardin des énergies qui était né quand même de l'influence qu'avait eu auprès des décideurs de jardin, du jardin expérimental de Méry-sur-Oise, qui parlait donc des plantes et de leur stratégie à travers l'eau. Et là, au contraire, c'est les stratégies qu'avaient les plantes en fonction des formes d'énergie qu'il y avait sur Terre. Et comme 99% de l'énergie est solaire, et ça, je n'arrive toujours pas à mettre ça dans la tête depuis 25 ans, que les beefsteaks qu'on mange sont de l'énergie solaire et que grâce à cette énergie solaire, nous-mêmes, on peut se parler aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, tout est solaire. Et donc Francis Allais, qui était dans notre équipe, avec Jean-Marie David...
Francis Allais, qui est un des plus grands botanistes et que nous avons eu la chance de recevoir ici dans Orchamps.
Qui voit exceptionnel pour nous, vos auditeurs, qui est l'inventeur du radeau des cimes. Et qui a continué de m'aider sur d'autres projets, avec qui j'espère bien travailler, tellement c'est quelqu'un d'inouï, de fabuleux, et en plus de très drôle et très sympathique. Et donc, avec Francis Allais, on a commencé à poser des questions qui ont un petit peu embêté, pas les techniciens d'EDF, mais ensuite ce qui à l'époque s'appelait la DRIR, qui est donc un peu la surveillance de l'industrie et entre autres du nucléaire. Et alors que le chantier allait démarrer sur des crédits européens, après 2 ans d'études, le préfet a décidé de tout stopper d'un seul coup. Et ça aussi, ça a été très très douloureux parce que on avait posé des questions un peu indiscrètes. Je rassure vos auditeurs, pas de problème de radioactivité, mais sur la qualité de l'eau du lac, sur des raisons techniques pour faire le chantier. Et ça s'est donc arrêté d'un seul coup. Mais j'ai toujours bon espoir, puisque tant qu'il ne s'est pas construit autre chose à la place, le lac est toujours là. Et j'oublie de dire que le lac est en permanence de l'eau chaude qui ne descend jamais, même quand il fait moins 25 degrés, qui ne descend jamais en dessous de 8 ou 9 degrés, et donc qui fume en hiver. Et donc j'avais inventé tout un processus de... Cette île était chaude avec l'eau de la centrale en permanence pour que les visiteurs puissent venir par centaines contempler des plantes venues du monde entier.
Dernière question, Pascal Cribier. Pourquoi les étourneaux de l'île pèsent-ils 80 grammes de plus que les autres?
80 grammes, je ne sais pas, on va dire 8 grammes ou, 10, ou 18 grammes sur 50 ou 100 grammes. Comme vous le savez, parce que la chose quand même des choses les plus consternantes, et je crois qu'on va arrêter de le faire, les autoroutes en Belgique sont éclairées la nuit. Et donc comme la fructification de certains arbres est décalée par rapport au nord, certains oiseaux ont découvert qu'en allant suivre le tracé de l'autoroute, ils pouvaient continuer de se nourrir des mêmes fruits avec un décalage de saison, ce qui est l'enjeu même de notre survie et de ce que j'appelle le paysage qui est devenu mondial aujourd'hui pour les problèmes de se nourrir, tout simplement, et de conservation de nos aliments, qui est l'enjeu même au début du jardin nourricier et de l'agroalimentaire aujourd'hui, qui est réellement très très complexe.
Merci beaucoup, Pascal Cribier. Je rappelle que pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, il faut se référer à ce livre absolument magnifique et remarquable qui s'intitule très modestement « Itinéraire d'un jardinier », mais il faudra attendre quelques mois, qui a été publié aux éditions Xavier Barral.
Merci, Laure.
Et votre jardin, vous m'y emmènerez un jour?
Bien sûr.
Votre jardin en Normandie?
Bien sûr, les gens sont tous les bienvenus quand ils aiment les plantes et les arbres. Bonsoir.
Merci Pascal Cribier, merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Palares, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost. Bonne soirée à l'écoute de France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 janvier 2011. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. How many mountains must you face before you learn to climb? I'm gonna give you what it takes, my youth. I'm gonna try to find a way to keep you safe from harm. I'm gonna build a special place, a shelter from the storm. And I can see child.
kid's life.